Dimanche et après, une émission préparée par Céline Leclerc, réalisée par Anne-Laure Chanel et Thomas Beau, à la technique Myriam Guillot. C'était une journée pénible. Mieux vaut que les agriculteurs n'aient pas assisté à ça. Ils en seraient sortis désespérés ou méchants. Ils commencent bien les états généraux de l'alimentation inaugurés cette semaine et que commente par ces mots la Coordination Rurale, deuxième syndicat agricole de France. Outre les consommateurs et leur désir de manger sain, dont il a été question tout à l'heure dans l'émission de Cause à effet d'Aurélie Luneau, les agriculteurs sont en droit d'attendre beaucoup de ces tout premiers ateliers du genre. Le chantier numéro 1 est consacré à une question qui leur est chère dans tous les sens du terme, la répartition de la valeur. Autrement dit, les relations commerciales entre eux, producteurs, qui fixent le prix de leurs marchandises en fonction du travail et des coûts investis, entre autres, les industriels qui transforment leurs produits, et enfin la grande distribution qui exige de ses partenaires en amont des prix aussi cassés que ceux qu'elle veut proposer à ses clients. Plus personne ne met en doute ce cercle vicieux, pas même les grandes enseignes qui voient venir un retour de bâton, les états généraux de l'alimentation, et après, se demandent ceux qui ont été laminés par cette guerre des prix, parmi lesquels producteurs de porc et producteurs de lait.
En 1990, il y a un coiffeur qui s'installait à Saint-Juir. J'y allais, j'y suis allé dès le départ. Il fallait 20 litres de lait pour me faire couper les cheveux. Aujourd'hui, en moyenne, il m'en faut 60 litres. Ça donne tout l'effet quand on nous reproche de toucher des prix. Ça donne toute la consistance, c'est-à-dire que la dépréciation de nos prix, quoi. Je finis toujours, parce que c'est un peu dramatique en le disant comme ça, je finis toujours par dire, mais je me demande ce qui fait de tout ce lait.
Dimanche et après. Julie Gacon.
Nous changerons plusieurs fois de focale pendant cette émission avec un coup de fil en région, un coup d'œil à l'étranger pour voir ce qui se fait ailleurs. Et jusqu'à 19h, nous sommes avec nos invités. Bonsoir Michel Lepape.
Bonsoir.
Vous êtes exploitant agricole du côté de Loches et président en Indre-et-Loire de la Coordination Rurale, deuxième syndicat agricole, disais-je, dont le slogan a toujours été « des prix, pas des primes ». Je précise que vous êtes, Michel Lepape, céréalier et que les céréaliers ont longtemps été tenus à l'écart des graves problèmes financier de l'agriculteur française, et notamment celui qui nous préoccupe aujourd'hui, celle des prix.
Oui, mais malgré tout, ils ont été rattrapés comme les autres. Toutes les productions sont aujourd'hui touchées par une chute des prix, par des fois des aléas climatiques. Ça, on a l'habitude, c'est inhérent à notre métier. Mais malgré tout, il y a une fluctuation des prix que l'on ne contrôle pas, que l'on n'explique pas, et on dépend surtout, paraît-il, de prix mondiaux, ce qui, nous, on n'a aucune influence là-dessus.
Alors, tout doit être remis à plat lors de ces états généraux. Enfin bon, on n'a qu'un mois hein, pour convaincre, comme on dit, pour décider. Ces états généraux sont en tout 7 ateliers avec une soixantaine de participants chacun. Combien d'agriculteurs vous avez compté?
Jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a environ 4 agriculteurs, enfin, prétendus agriculteurs, parce que c'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme hier, il y a des gens qui défendent des agriculteurs et qui sont plus des agriculteurs. Souvent, c'est des professionnels de la représentation et ils sont un peu décalés par rapport à la base. C'est ça aussi le problème.
Ah, mais vous n'allez pas commencer à diviser des.
Non,
dès
je
le
ne
début.
Divise pas. Simplement, je pense qu'il faut éviter de reprendre les vieux outils si on veut vraiment changer de système, parce qu'on est au bout d'un système.
Bonsoir Thierry Pouche.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du service des études économiques de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Vous êtes aussi chercheur associé à l'Université de Reims. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de ces états généraux de l'alimentation? Et le terme choisi est révélateur, on n'a pas dit de l'agriculture.
Alimentation, parce que nous sommes dans un mode de fonctionnement par filière, c'est-à-dire que on va de l'amont vers l'aval et qu'il y a un certain nombre d'acteurs qu'il faut réunir autour de la table pour essayer de désamorcer ces tensions économiques et commerciales qu'on connaît depuis maintenant des années en France. C'est-à-dire que la logique partenariale devrait s'imposer enfin, pourrait-on dire, après des années et des années de tensions, de rivalités, et de processus un peu déflationniste, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver les prix les plus bas possibles, mais il faut les trouver sur celui qui vous précède. Donc du coup, comment il fait pour se rémunérer, pour investir, pour embaucher, pour aborder le tournant technologique aussi, parce que les agriculteurs sont touchés par ça. Donc on est dans une spirale un petit peu compliquée là depuis quelques années, et ces états généraux devront non seulement établir un diagnostic sur l'état réel de ces filières, hein, de ces agriculteurs, mais aussi de l'industrie et de la distribution, mais au-delà du diagnostic, trouver des leviers pour essayer de déterminer une logique un peu plus partenariale qu'on trouve d'ailleurs dans certains pays étrangers, hein, dans les filières, en Allemagne, aux Pays-Bas, il y a aussi des logiques un peu plus partenariales et un peu moins personnelles.
Alors à défaut d'inviter autour de la table de ces états généraux Wall Street ou tous ceux qui font la pluie et le beau temps sur les marchés mondiaux, puisque Michel Lepape, vous rappeliez à quel point vous dépendez d'un marché qui vous échappe, on a invité donc des agriculteurs, des représentants de cette filière évoquée par Thierry Pouch, à savoir des industriels et la grande distribution, et d'ailleurs atelier 5, dont l'intitulé est « Rendre les prix d'achat plus rémunérateurs pour les agriculteurs », présidé par deux personnes, un haut cadre de chez Danone et le patron de Super U. Pas d'agriculteur, Michel Lepape.
Bah, écoutez, c'est quand même assez terrible de parler des marges avec des gens qui sont là pour préserver les leurs. C'est bien normal, ils défendent leur métier. Nous, on doit défendre les nôtres aussi, le nôtre. Et on doit prendre les choses en main. Je crois que c'est ça, essentiellement, si on veut vraiment la réussite des états généraux. On attend beaucoup, les agriculteurs attendent beaucoup de ces états généraux. Parce que là, on arrive au bout d'un système. Quand je vous le disais, c'est que les chiffres de 2016 qui reflétaient que l'année 2015, c'est 350 euros environ par agriculteur et par mois. Alors ça peut paraître pour vos auditeurs pour la moitié des agriculteurs. Et ça peut paraître un petit peu curieux, mais ils font de l'abus de biens sociaux, ce qui est interdit dans les autres métiers. On pioche dans la caisse, quoi.
Alors Thierry Pouch, on va essayer de répondre par étapes. Donc qui peut avoir les clés? Est-ce que c'est la grande distribution? Vous avez déjà tous les deux prononcé ce mot de marge. D'abord, comment on les calcule, les marges, quand la grande distribution dit que les marges représentent à peu près 2% de leur chiffre d'affaires? Qu'est-ce que ça veut dire et comment on les encadre?
Alors là, 2%,
ça me paraît un peu, oui, un peu bas quand même, mais bon.
En tout cas, les marges ne sont jamais rendues publiques. Il y a un observatoire qui a été mis en place.
Il y a un observatoire des prix
et
des marges.
Sauf pour les agriculteurs.
Voilà. Il y a un observatoire des prix et des marges qui a été mis en place il y a quelques années déjà et qui montre bien que sur certains produits, effectivement, la grande distribution ne dégage pas forcément des marges élevées. Parfois, elles sont négatives. Mais même lorsqu'elles sont négatives, il y a des mécanismes de compensation au sein des circuits de distribution qui permet justement de compenser ces marges négatives sur les produits alimentaires. Donc il y a quand même une multitude de produits, donc il y a des phénomènes comme ça d'ajustement qui permettent à l'enseigne de s'en sortir finalement plutôt bien.
Mais d'autant qu'on sait que dans son résultat net, elle ne prend pas en compte des variables qui n'ont rien à voir avec la vente du lait ou de la viande, le prix du loyer au propriétaire des murs, l'agrandissement du magasin et qui in fine le font payer aux producteurs.
Voilà. Il peut y avoir des participations comme ça, voilà,
et des participations.
Donc tout cela est un petit peu complexe. Et probablement que justement ces états généraux pourraient déboucher, voilà, un levier. Alors on en entend beaucoup parler depuis pas mal d'années, mais en France c'est compliqué à mettre en place. Peut-être des mécanismes de rétrocession de la valeur ajoutée, alors soit par de la contractualisation, soit par on légifère et on met ça en place. Mais c'est compliqué parce que là vous avez quand même affaire à des acteurs privés qui non seulement ne révèlent pas leurs chiffres, mais qui, dans un contexte macroéconomique un peu compliqué, hein, de croissance qui n'est pas suffisamment élevée, de stagnation du pouvoir d'achat, vous disent on a en face de nous des consommateurs qui sont un petit peu en difficulté, donc on ne peut que jouer sur des promotions, des prix bas, etc. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'Observatoire des prix et des marges, ils avaient calculé sur un billet de 100 euros combien revenait à l'agriculteur. C'était, je me souviens bien.
Sur 100 euros, c'est une quinzaine d'euros.
Même pas, je crois. C'était même pas une quinzaine d'euros qui revenait.
En tout cas, sur 100 euros de course alimentaire, dans un caddie, 100 euros de course alimentaire, 6,20 € vont dans les poches des paysans.
Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est qu'en même temps, on est encore à la moitié des 15 euros que dont parlait Monsieur Lepape. Donc, on est dans un contexte, en plus, qui ne facilite pas les choses. Donc, c'est probablement pour ça aussi que non seulement il faudrait trouver des leviers pour les agriculteurs, pour les industriels de la transformation et les distributeurs, mais aussi à une échelle plus macroéconomique, une politique économique qui soit un peu plus efficace et qui emmène vers le haut la capacité de consommation des ménages en France, par exemple.
Oui.
Michel Lepape.
Oui, mais je crois qu'on peut prendre à chaque fois les produits agricoles, c'est-à-dire le produit de base, sert de variable d'ajustement. Et ça, c'est un problème. Par exemple, sur une baguette qui est à moins d'un euro, on va avoir 5 centimes, même pas 4 centimes qui va revenir pour acheter du blé pour fabriquer cette baguette. Bon, on voit bien la disproportion qu'il peut y avoir.
Mais alors Michel Lepape, est-ce que la clé peut pas être aussi dans les mains de la grande distribution qui à un moment va, elle aussi, finir par être fragilisée, tout est relatif, mais cette guerre des prix bas, elle va finir par en payer le prix aussi puisque les consommateurs ne sont pas au rendez-vous. Est-ce que finalement, ça peut pas venir de là?
Oui, mais ils ont souvent un regard qui est à court terme. On fait le maximum d'argent en très peu de temps parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer. Or l'agriculture, elle, est vraiment à long terme. Si on veut avoir une agriculture durable, il va falloir penser même parfois sur plusieurs générations. Mais pour élever des animaux, il faut des fois 2-3 ans pour qu'ils soient productifs. Et puis, on ne récolte pas toutes les semaines, on ne passe pas à la caisse toutes les semaines en faisant une moisson. Donc c'est une fois par an.
Alors on a quand même l'impression que les grandes enseignes commencent à réfléchir, si ce n'est à long terme, au moins à moyen terme. On entend souvent le patron de Système U, Serge Papin. C'est aussi le cas du côté de Lidl qui veut avoir un discours plus vertueux, à baser sa communication là-dessus. On l'a joint un peu plus tôt, son gérant achat, Michel Biraud, dont on ne savait pas s'il avait été convié aux états généraux.
Alors malheureusement non, nous n'avons pas été invités. J'aurais bien aimé parce que je pense qu'on a plein d'idées, on a fait beaucoup de choses ces dernières années pour le monde agricole et il faut vraiment faire quelque chose parce que c'est malheureusement, ils sont en mauvaise posture et c'est très bien qu'ont lieu ces états généraux de l'alimentation, je pense, et j'espère en tout cas qu'il en sortira quelque chose, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé y participer.
Alors qui est-ce qui est en mauvaise posture? Est-ce que ce sont les agriculteurs ou est-ce que ce sont les enseignes de la grande distribution dont on se demande ce qu'elles ont à gagner de tels états généraux puisque la question des prix et du juste prix pour les agriculteurs a, semble-t-il, été entendue par les pouvoirs publics? En tout cas, c'est l'impression que ça donne.
Alors ce que les enseignes, en tout cas nous, je parle pour ma paroisse, hein, ce que nous, Lidl, on a gagné, si les agriculteurs s'en sortent, et il faut qu'ils s'en sortent, parce que ça fait maintenant 5 ans qu'on a décidé de changer de stratégie chez Lidl France, et le vecteur, un des vecteurs principaux en tout cas, a été le Made in France. Et si malheureusement demain nous n'avons plus d'agriculture, plus d'élevage, plus de produits laitiers français, ben, je ne sais pas comment je vais continuer à développer mon Made in France. Et le consommateur aujourd'hui, il le réclame ce Made in France. Donc c'est vraiment nécessaire et c'est tout aussi nécessaire de soutenir le monde agricole pour pouvoir, nous, distributeurs, continuer à distribuer des produits Made in France.
Mais vous, chez Lidl, votre argument, en tout cas dès l'origine, c'est plutôt de pratiquer les prix les plus bas. On parle d'ailleurs à l'époque de grande distribution low cost. Comment vous conciliez des prix bas pour ceux qui franchissent la porte de vos magasins et des prix assurés, le juste prix aux agriculteurs qui vous fournissent en matières premières?
Alors le terme low cost, ça fait 5 ans qu'on l'a banni. Effectivement, et on ne renie pas nos origines, nous sommes arrivés en France en tant que hard discounter, donc comme vous le dites, avec un concept très low cost. Il y a 5 ans, on a décidé de sortir du hard discount pour devenir un supermarché de proximité, comme beaucoup d'autres. Moi, je pense tout simplement qu'il faut un juste partage de la valeur des produits. Donc, il faut partir de la matière première. La matière première, elle vient pas de chez moi, elle vient pas de l'industriel. Elle vient forcément du monde de l'élevage. Ça fait trop d'années que finalement les distributeurs, et j'en fais partie, et les industriels se sont bagarrés pour finalement que les industriels jettent les miettes qui restaient aux éleveurs. Et les éleveurs ont été pendant toutes ces années la variable d'ajustement de la guerre entre la distribution et l'industrie. Je pense qu'il faut, et j'espère que c'est ce qui va sortir de ces états généraux de l'alimentation, il faut repartir de l'éleveur, donc de la matière première, pour dire ben, les éleveurs, c'est eux qui produisent la matière première, donc c'est eux et eux seuls qui connaissent leur coût de revient, le prix de production. Et donc c'est ce que j'ai d'ailleurs conseillé quand j'ai rencontré Monsieur le ministre, de dire il faut mettre en place un prix minimum garanti. Si le litre de lait à la production coûte 35, 36 ou 39 centimes à produire, eh ben on payera à l'éleveur 39 centimes pour le produire. Et ensuite, pour moi, il n'y aura pas de problème de concurrence, étant donné qu'on continuera, nous distributeurs, à discuter le prix d'achat avec l'industriel.
Et aujourd'hui, vous diriez que votre marge, elle s'établit à peu près à quel pourcentage de votre chiffre d'affaires ? Les marges que vous faites sur les produits ?
Je ne vais pas parler de marge, je dis juste que je la dégrade forcément un petit peu quand je m'engage dans une tripartite, mais je m'y retrouve parce que je vais vendre plus de produits, parce que je vais communiquer sur cette tripartite, c'est-à-dire que on va avoir les photos des éleveurs sur les packagings, on va parler de viande locale, on va parler de viande et de prix rémunérateurs pour l'éleveur, et ça, ça parle aux consommateurs, ils y sont sensibles et donc ils en achètent plus.
Michel Biro, la grande distribution pourrait être mise à contribution d'une autre manière, c'est en rognant une partie de votre marge pour abonder une sorte de fonds de soutien aux agriculteurs, comme l'avait proposé Xavier Belin quand il était à la tête de la FNSEA avant son décès. Est-ce que ce sont des choses qui peuvent vous paraître faisables ?
Bien évidemment, on l'a démontré, nous avons collecté 4 millions en 6 mois, suite à toute cette histoire du fonds que Xavier Belin souhaitait mettre en place avec la FNP, on l'a démontré et on peut le refaire.
Vous, comment vous y étiez pris à l'époque ?
Bah, tout simplement, on avait décidé de montrer à la France entière que quand on veut, on peut. Donc sans rien dire à personne, j'ai décidé de prendre 3 centimes sur chaque bouteille de lait pendant 6 mois. Et comme on connaît parfaitement nos ventes, je savais que ça allait faire 4 millions. Pourquoi j'ai décidé ces 4 millions ? Parce que on a expliqué après que si Lidl, avec 5 points de part de marché, en l'espace de 6 mois, sans se couper un bras, arrivait à collecter 4 millions d'euros, si on s'y mettait tous, si les 95 autres pourcents de la distribution s'y mettaient, on serait pas loin des 100 millions dont parlait Xavier Belin. Et si en plus, monsieur le ministre, faisait un petit peu du bruit au niveau de la restauration collective, au niveau des préfectures, et j'en passe, et de la restauration tout court, et que eux aussi mettaient un tout petit peu la main à la poche, ben on serait à 200 millions, et là, on pourrait commencer à parler d'aide. Et donc, quand les journalistes me demandaient, mais monsieur Biro, est-ce que vous êtes prêt à le refaire ? Mais bien sûr, demain matin. Par contre, avec tous mes copains.
Michel Briero, gérant achat chez Lidl. Alors voilà, Michel Lepape, la grande distribution qui veut y aller de son obol, quelles que soient les intentions derrière, ça vaut peut-être le coup, non ?
Bah, c'est intéressant d'entendre ça. Et monsieur Travers a intérêt de se tenir droit. Parce que
Stéphane Travers.
On a trouvé le prochain ministre de l'Agriculture, sans doute, en France. Non, mais je crois qu'il ne faut pas faire peur non plus aux auditeurs. Si on augmentait de 40% les produits de matières premières agricoles, ça n'augmenterait évidemment que de 0,73% le panier de la ménagère. Donc, il n'y a pas une incidence qui est énorme là-dessus. Hein. On a tout le temps, depuis l'après-guerre, on a tout le temps voulu baisser le prix, le montant du panier de la ménagère. Je crois que là, maintenant, on ne peut plus aller plus bas. Par contre, on a quand même démoli une grande partie de l'agriculture française. Tout à l'heure, on a évoqué la viande, mais il faut savoir que 40% de la viande est importée, hein, d'Europe ou d'ailleurs. De la viande de bœuf et de la viande aussi avicole. Enfin, le secteur avicole a connu une crise aussi sans précédent. Et la Bretagne, qui était tournée vers l'exportation, dont on nous fait toujours la publicité, eh bien, on a bien vu ses limites. C'est que là, quand les exportations s'arrêtent, eh bien, c'est tout un pan de l'économie qui s'écroule.
Thierry Pouche, ce qu'on entend aussi chez Michel Briero, c'est que la grande distribution renvoie toujours la balle aux intermédiaires, les industriels. Mais après tout, c'est vrai que ce sont eux qui achètent la matière première directement aux agriculteurs. Des agriculteurs qui, en général, n'ont pas les moyens de lutter, tout simplement parce que leurs données sont périssables. Ils doivent les écouler.
Il n'y a pas que en raison du côté périssable de la matière première. C'est le cas en particulier du lait. Mais il y a aussi le fait que les agriculteurs sont atomisés, c'est-à-dire qu'ils sont dispersés. Il n'y a pas une organisation suffisamment puissante pour faire contrepoids au pouvoir de marché que détiennent les industriels et les distributeurs. On sait assez bien maintenant dans le secteur laitier comment ça se passe. Hein. On a un certain nombre, on a en gros 70 000, 75 000 producteurs de lait. On a 400 transformateurs et 4 centrales d'achat. Quand vous êtes de moins nombreux sur un marché, vous vous entendez plus facilement. que quand vous êtes dispersé, avec parfois des divergences de points de vue. C'était pour ça, d'ailleurs, que à la sortie des quotas laitiers, avec la crise qui a été occasionée par cette crise et cette sortie des quotas laitiers, il y avait cette idée d'autoriser les organisations de producteurs. Bon, voire même les associations d'organisations de producteurs.
Ça ne marche pas.
Et ça, c'est un peu limité parce que pour définir une organisation de producteurs, il faut quand même que ces producteurs aient aussi un fil conducteur, c'est-à-dire qu'ils soient relativement convergents dans ce qu'ils veulent faire et sur la façon dont ils vont pouvoir peser dans les négociations sur le prix. Donc là, il y a vraiment une difficulté assez importante. Par ailleurs, il y a aussi un autre point sur la distribution et même l'industrie de la transformation, c'est que lorsque le prix de la matière première augmente, il y a une répercussion automatique sur le prix à la consommation.
Oui,
mais lorsque le prix de la matière première diminue, on voit que le prix à la consommation, lui, ne diminue pas, ou en tout cas dans les mêmes proportions. Donc là, il y a aussi un problème sur un levier possible. Il faudrait qu'il y ait des mécanismes d'ajustement à la hausse comme à la baisse pour le consommateur, du coup. Parce que il n'y a pas de raison que quand le prix du lait diminue ou le prix des céréales, le consommateur n'en bénéficie pas non plus.
Michel Lepape, j'aimerais juste comprendre quelle est la nature des relations que vous entretenez, vous, en tant qu'agriculteur, en tant que céréalier en Indre-et-Loire, avec les industriels. Vous devriez être partenaire. On se dit, vous dépendez
si vous
les
voulez,
uns des autres.
Ce qui est quand même assez curieux, c'est qu'on a construit, enfin nos prédécesseurs, nos anciens, comme on dit, ont construit des machines qui s'appellent des coopératives. Hein, ça date depuis 1936 environ, enfin dans ces années-là, et où il y avait une grande crise aussi en France à l'époque. Et donc ces machines, parce qu'aujourd'hui j'appelle ça des machines, les grosses coopératives, il n'y en a pas beaucoup, mais les grosses coopératives nous ont échappé à tout contrôle des agriculteurs, malgré qu'ils aient encore un conseil d'administration.
Ils sont bien
agricole.
Dans les instances de décision, les agriculteurs, dans les coopératives.
Oui, mais attendez, quand vous avez des coopératives qui ont 5000 salariés, par exemple, j'en ai une en tête, 5000 salariés. Quand vous avez des filiales plus importantes encore que la coopérative, la maison mère, et qui investit à l'étranger, qui importe d'ailleurs des produits de l'extérieur, soi-disant pour le bonheur des producteurs français, là, ça me paraît quand même un petit peu curieux. Donc, il faut sans doute revoir le statut des coopératives. Il y a des coopératives qui sont très bien, très vertueuses. Lorsque l'on dit qu'il faut réunir toutes ces coopératives pour en faire qu'une seule, je ne suis pas sûr que le pouvoir de décision soit dans les mains, dans ce cas-là, des agriculteurs. Et on a un exemple, le comté, par exemple, où il y a quand même une bonne réussite, qu'on va pas qualifier d'industriel, mais d'agricole, eh bien, ils ont encore des coopératives de taille modeste qui sont performantes. On exporte du comté. Et les agriculteurs vivent bien, enfin, d'après des collègues, vivent bien de leur métier. Ça veut dire que les normes qui ont été dictées depuis des années, depuis l'après-guerre, par les industriels et qui ont été appliquées par les coopératives, doivent aujourd'hui revenir aux agriculteurs. Et là, on se rapprochera du vivant.
Les coopératives aujourd'hui, elles, pour certaines d'entre elles, s'amusent davantage quand elles ont un peu d'argent frais à racheter des boîtes plutôt que de verser l'argent à leurs adhérents. En tout cas, c'est un reproche qui leur est très souvent formulé par les agriculteurs indépendants.
Qui est justifié.
Donc ça veut dire que les agriculteurs eux-mêmes ont certaines clés du problème.
Ah bah évidemment, certains agriculteurs. Et puis, vous savez, le système démocratique dans les coopératives est des fois un petit peu curieux parce que c'est par cooptation. Vous avez un syndicat que je nommerai pas, mais qui a une influence tout importante. Et vous avez COP de France aussi, qui est un organisme assez puissant, qui aujourd'hui, je crois, roule plus pour lui ou pour des grosses coopératives que pour des petites coopératives et pour des producteurs, dans l'intérêt des producteurs. D'ailleurs, ils ont prévu l'après, c'est-à-dire que de pouvoir capter le foncier agricole, ça c'est déjà dans les tiroirs, puisqu'on a un document qui est disponible sur le site de la coordination rurale, de 100 pages, où ils éventuellement, où ils se préparent à racheter le foncier agricole. Ça c'est terrible, c'est-à-dire que l'enfant qui est né en notre sein est en train de nous dévorer.
Thierry Pouche, vous avez des informations là-dessus? C'est vrai que j'ai eu du mal sur le terrain, comme on dit, à en recueillir. Sur le fait que les géants sont en train de racheter, puis on s'éloigne un petit peu de notre sujet, mais pas tant que ça.
Pas tant que ça,
pas tant que ça.
On a une évolution assez significative de la logique de la coopération. On voit bien que depuis c'est la mondialisation qui s'est mise en place au détour des années 90, tous les acteurs du monde agricole, du monde industriel alimentaire, les coopératives ont suivi. C'est-à-dire qu'elles se sont éloignées de leur finalité première pour devenir des entreprises avec une logique qui n'est plus du tout celle qu'on avait initialement.
Donc elles ont échappé.
Elles ont aussi permis à certains de leurs adhérents d'investir, d'agrandir les tables, d'investir dans un robot de traite, toujours dans la perspective pour le lait, par exemple, d'augmenter leur production avec en tête la fin à venir des quotas. Ça y est, elle est effective. Donc, est-ce que c'est entrer faire le jeu de la grande distribution que de dire que certains agriculteurs aussi ont peut-être fait ce jeu-là de
Je ne présenterai pas ça comme ça parce que... La sortie des quotas laitiers, elle a été souhaitée au début des années 2000 par la Commission européenne, par un certain nombre d'États d'Europe du Nord qui étaient préparés et qui souhaitaient ardemment une sortie des quotas laitiers. Un pays comme l'Irlande n'a jamais accepté l'instauration des quotas laitiers en 1984.
Il faisait toujours partie du Commonwealth,
oui.
Oui, c'est drôle parce qu'ils mangeaient un petit peu à tous les râteaux. Ils ont une drôle des tables quand même. Hein. Et puis ils avaient des avantages fiscaux européens qui étaient quand même non négligeables.
Absolument.
Aujourd'hui, ils fournissent quand même beaucoup de viande bovine.
Absolument.
Alors qu'on a des producteurs qui sont en train, permettez-moi l'expression, de crever en France.
Mais cette sortie des quotas laitiers était quand même un gros paradoxe parce qu'elle est intervenue au moment même où on pensait que les agriculteurs allaient pouvoir produire un peu plus pour écouler ces produits laitiers sur les marchés mondiaux. Mais c'est précisément à ce moment-là que les marchés mondiaux se sont retournés. C'est-à-dire qu'on a eu des conjonctures qui n'étaient pas très porteuses, notamment dans un pays comme la Chine qui est un gros importateur de produits laitiers. Et du coup, on a eu un phénomène de surproduction de produits laitiers qui s'est heurté à une demande insuffisante à l'échelle mondiale. Les prix se sont effondrés pendant presque 3 ans.
C'était prévisible.
Et c'était prévisible. Et là, le problème, c'est que non seulement les pays d'Europe du Nord ont anticipé des débouchés qui n'étaient pas au rendez-vous, mais que la Commission a encouragé ça aussi. Donc du coup, on était dans une situation de crise absolument catastrophique, structurelle, qui a eu des dégâts considérables sur un plan humain notamment. Mais on voit que les prix commencent un peu à remonter, mais c'est quand même un peu compliqué, avec à l'exception du beurre, où on a franchi les 5000 euros la tonne. Mais on est encore un petit peu en dessous de ce qu'on avait avant la sortie des quotas laitiers.
Alors que ce soit dans le cadre du secteur laitier, dans les céréales ou dans la viande, chacun essaye de tirer son épingle du jeu, chacun se débrouille comme il peut. Et chaque semaine, dans Dimanche et après, nous solliciterons un regard de terrain, un regard local.
France Culture, Dimanche et après, Julie Gacon.
Bonsoir Jean-Luc Thiriot.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un tout jeune éleveur en Ille-et-Vilaine. Vous allez vous mettre à l'élevage de porc en bio. C'est imminent et vous allez vous lancer dans des conditions assez idéales puisque vous avez signé, Jean-Luc Thiriot, un contrat avec un abattoir. Je vous laisse nous expliquer ce qu'il vous garantit.
Oui, donc en fait, je suis producteur, pour être plus complet, je suis producteur lait et céréales en conventionnel et également producteur de porc bio, donc...
Ça, c'est tout neuf.
Du mois prochain. Oui, donc je suis installé depuis le mois de mars avec mes parents.
Alors, ce contrat.
Donc, en fait, la particularité, en fait, en effet, c'est que la vente de maillets de porc est contractualisée pour une durée de 10 ans avec un prix garanti et un prix même qui est indexé sur le coût alimentaire. Donc, du coup, moi, j'ai fait ce choix-là pour surtout des raisons de sécurité. Et donc, ce contrat-là, en fait, me lie, moi, un professionnel de la grande distribution et abatteur.
Dont vous n'avez pas le droit de donner le nom.
Non. Et lit également, en fait, une coopérative. Enfin, vous parliez beaucoup des coopératives tout à l'heure. Elle, je peux la citer, c'est la coopérative du Gouessant à Lamballe, qui, en fait, du coup, a réuni, on est à peu près 6 ou 7 éleveurs, là, à se lancer en même temps sous ce contrat-là. Voilà.
Avec quel intérêt pour l'abattoir? Quelle contrepartie de votre part?
On est sur un marché de niche qui est le porc bio et puis un marché surtout qui est en sous-production très importante, quoi. Donc l'abattoir, lui, se sécurise une partie de ses approvisionnements parce qu'il faut savoir qu'on importe aujourd'hui une bonne partie du porc bio en France. Donc c'était un moyen de d'être un peu plus cohérent sur ce marché-là qui se veut être quand même un marché de proximité et puis qui est un marché en explosion parce que la consommation de produits bio augmente tous les ans. Je crois que l'année dernière, c'était 20% d'augmentation de la consommation. Donc, pour l'abattoir, c'était un enjeu stratégique de répondre à une demande parce que, en fait, je pense que le nerf de la guerre, mais pour reprendre un peu toutes les interventions que vous aviez jusque-là, le nerf de la guerre, c'est la consommation. Et du coup, là, cette enseigne-là peut proposer du porc local, bio, et sécuriser son approvisionnement. Quoi.
Bon, j'imagine que ça vous a aidé à convaincre les banques à vous dire oui. Le bio, c'est un choix de conviction ou un choix économique, pour conclure, pour
les vous deux. Les deux, c'était un choix de conviction, mais qui n'était pas aussi facile que ça à mettre en place, quoi. Donc, au vu des investissements que j'étais tenu de mettre en place pour être conforme au cahier des charges, le contrat a été un plus, en effet, pour séduire les partenaires bancaires, hein, puisque sinon, en fait, c'est un marché un peu exotique encore pour eux. Et du coup, sans ce contrat et sans l'appui de la coopérative derrière pour les rassurer, oui, ça aurait été plus compliqué, ça c'est sûr, de se faire financer. Ouais.
Merci beaucoup Jean-Luc Thiriot. Je peux vous proposer de rester en ligne, mais je crois que c'est l'heure de la traite pour vous, avec les vaches que vous avez.
Oui.
Bon, en tout cas, merci à vous.
Merci.
Michel Lepape, vous êtes aussi en bio pour les céréales. Ce qui se fait en bio, là, des contrats tripartites, des contrats avec des abattoirs pour la viande ou des industriels plus généralement, est-ce qu'on peut l'imaginer aussi dans le conventionnel ?
Pourquoi pas ? Parce que des contrats, ça, on est toujours rompu à en faire. Aujourd'hui, on a délégué. Souvent, les agriculteurs ont aussi une partie de responsabilité. C'est qu'on a toujours délégué. On a habitué les agriculteurs à déléguer leurs responsabilités. Notamment, par exemple, ce qui est très étonnant, c'est qu'ils ne font pas leur facture des céréales. Quand ils livrent, c'est l'acheteur, la coopérative ou le négociant, qui fait la facture. Donc, il fait les prélèvements aussi. Qui applique des normes qu'on accepte plus ou moins, mais une fois qu'on a livré, c'est terminé. Donc, revenir à des contrats, ça serait très intéressant, mais revenir aussi à réguler la production, je pense que c'est une des clés. Tout à l'heure, vous parliez des clés. On a vu les dégâts qu'ont occasionné la suppression des quotas laitiers, qui ont été en fait pris par les industriels. Ça a été capté par les industriels. C'est pas les industriels qui se lèvent pour faire la traite, qui vont le dimanche soir aller traire comme notre ami tout à l'heure. C'est quand même les éleveurs. Et ces éleveurs, on leur a pris leur quota. Et on fait la même chose actuellement, non content de la catastrophe que ça a occasionné dans le lait, on le fait la même chose dans la betterave. Donc si on ne met pas une régulation de la production, et évidemment je vais entendre certains arguments en disant qu'on est aujourd'hui dans une économie mondiale, d'abord je voudrais rappeler quand même, avant l'économie mondiale, c'est qu'il y a une Europe, elle est où? Et qu'est-ce qu'elle fait? Ça, on se pose quand même beaucoup la question, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se sont posés la question, lors des dernières élections d'ailleurs. Eh bien, c'est de savoir si on ne doit pas réguler cette production pour éviter de faire basculer vers une surproduction, parce que des fois, c'est 3-5% qui font basculer les prix. Vous savez, les échanges internationaux, pardonnez-moi, je suis peut-être un petit peu long.
Allez-y, Michel Lepape.
Mais les échanges internationaux de denrées agricoles, ça représente même pas 10% en produits agricoles, hein, que 10%. Ça veut dire que beaucoup de pays consomment d'abord leur production. Donc, c'est un marché de solderie. Et si on se positionne que sur ce marché-là, et si on prend ce marché en référence, on va à la catastrophe qu'on connaît aujourd'hui.
Thierry Pouche, les marchés mondiaux ont peut-être la clé, mais pour la récupérer, ça va être une autre histoire. Quelles que soient les décisions actées lors de ces états généraux de l'agriculture, comme réécrire la LME, la loi de modernisation de l'économie qui date de 2008 et qui a permis des négociations très libres entre la grande distribution et les industriels, dont il faudrait faire la distinction entre PME et grands groupes, mais bon, ce serait un peu long. Quelles que soient les décisions actées, encore faudra-t-il les faire remonter au niveau européen. C'est quand même à Bruxelles que tout se joue aujourd'hui. Donc tout ça, c'est quoi, un grand raout pour pour faire plaisir ?
Non, pas forcément. Enfin, en tout cas, j'espère pas. Je pense que si on trouve des outils, des leviers qui pourraient justement faire en sorte que la France puisse peser tout son poids dans les futures négociations de la prochaine politique agricole commune, ça serait déjà une bonne chose. J'ai cru entendre le ministre, M. Travers, dire qu'il prendrait appui sur ces états généraux de l'alimentation pour aller négocier la prochaine politique agricole commune à Bruxelles à l'horizon 2020-2022. Ce sera certainement plus long en raison de la sortie du Royaume-Uni. Mais il est vrai que, au-delà de ça, ces états généraux de l'alimentation devront livrer quelque chose de suffisamment consistant pour peser sur l'Union européenne. Parce que le problème est bien là, Monsieur le Pape en a parlé, depuis le début des années 90, depuis 92 précisément, il y a eu une succession de réformes de la politique agricole commune qui ont conduit à une vaste dérégulation des secteurs qui étaient jusque-là régulés avec des prix d'intervention, des aides diverses et variées, des subventions aux exportations, etc. Tout ça a été progressivement balayé en essayant de convaincre les agriculteurs qu'ils devront désormais répondre aux signaux du marché. Alors évidemment, lorsque en 2007, 2008, 2009, puis 2010, 2012, il y a eu une flambée des prix agricoles, les agriculteurs ont été...
Il y a eu quelques flambées dans certaines productions, mais pas tant que ça.
Pas partout, mais en céréales, notamment, enfin dans les grandes cultures, ou même en lait, on a eu une flambée des prix qui a été conséquente. Mais... comme ça a été dit tout à l'heure, on est aujourd'hui dans des phases de volatilité extrême. Quand les prix retombent, effectivement, là, les agriculteurs n'ont plus les filets de sécurité que l'Europe pouvait lui accorder pendant l'histoire de la politique agricole commune. Donc, pour des raisons budgétaires, pour des raisons de rivalité entre États membres, notamment le Royaume-Uni qui considérait que ça servait à rien la PAC et que ça coûtait trop cher, certains pouvaient même dire qu'il n'y avait plus de perspective de crise alimentaire, donc c'était pas la peine de continuer. Mais aujourd'hui, il se trouve quand même que au regard de la situation alimentaire mondiale, au regard des besoins émergents dans un certain nombre de pays, eh bien, l'agriculture est redevenue un enjeu géostratégique. Donc l'Union européenne doit s'interroger sur ce qu'elle entend faire de son agriculture. Et les États généraux de l'alimentation aussi, par la même occasion.
Michel Le Pape.
Je crois qu'il y a des exemples qui sont assez édifiants, et je crois que vous allez me rejoindre là-dessus, sur le blé dur notamment. Le blé dur était une culture qui variait beaucoup dans les prix. Mais depuis quelque temps, on se rend compte que, en fait, même s'il en manque, les prix ne bougent pas. Et pourquoi ? C'est parce que beaucoup de coopératives ont construit un outil qui capte à peu près 80% et qui traite 80% du blé dur en France et qui, elle, régule pour éviter que ça monte.
Donc c'est peut-être du côté du blé dur qu'on a une solution ?
Non, c'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est pour éviter que ça monte.
Des mécanismes qui ont été mis en
place. Les résultats... pour des agriculteurs, ils estimaient, ils se disaient « Ah, cette année, je vais avoir les vaches grasses. Je vais pouvoir mettre un petit peu de trésorerie de côté ou me refaire, comme dit un joueur, me refaire. » Et là, c'est terminé. Parce que c'est autorégulé, mais là, autorégulé pour éviter que ça monte. Or, à la baisse, éventuellement, là, on peut faire des dégressivités en fonction de la qualité. Enfin, ça, ils savent très bien faire parce que... il y a des agriculteurs qui n'ont plus les moyens. Il n'y a plus qu'une coopérative par département, voire qui couvre plusieurs départements, voire des régions entières. Quand il y a 5000 salariés dans une coopérative, vous pensez bien qu'elle est assez puissante. Et quand il y a des petites coopératives avec des présidents qui se battent, et j'en connais, avec des salariés qui se battent vraiment corps et âme pour pouvoir maintenir leur outil, ils se font broyer par ces grosses coopératives qui profitent d'avantages fiscaux qui sont honteux aujourd'hui pour le citoyen.
Il ne faut pas oublier que l'Union européenne aussi, dans ce long processus qui date depuis le début des années 90, on est arrivé aujourd'hui à multiplier les accords de libre-échange avec un certain nombre de pays ou de régions qui vont fragiliser d'une façon ou d'une autre. Alors, il y aura des secteurs offensifs, hein, on pense au fromage, au Canada par exemple.
Oh non, ça, mais, c'est vraiment à la marge,
en même
par
temps,
rapport aux dégâts que ça va faire. Ça va va occasionner 75 000 tonnes de viande bovine qui vont débarquer.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'il y a eu des secteurs qui ont tiré un peu leur épingle du jeu, comme les produits laitiers. Mais en retour, on aura, en viande bovine ou en viande porcine, des contingents tarifs.
Les produits
laitiers,
pardonnez-moi de vous couper, les produits laitiers, mais ça ne va pas être les producteurs qui vont en profiter. Non,
mais après, c'est le problème. Après, voilà, c'est les produits transformés. Après. Mais après, comment on rétrocède un peu de valeur sur les agriculteurs?
L'industrie laitière.
Là aussi, l'Union européenne a quand même aussi à réfléchir sur sa stratégie commerciale.
Mais est-ce qu'il y a des solutions franco-françaises? Est-ce qu'on peut fixer un prix français pour le marché français? Par exemple, le lait. Dans certains magasins de l'ouest de la France, le lait qui vient de l'étranger, ça ne marche pas. Plusieurs enseignes ne vendent plus que du lait français. C'est notamment l'universitaire Olivier Mevel qui a travaillé là-dessus. Est-ce qu'en partant du principe que ça ne marche pas, on ne peut pas imaginer qu'on peut, pour certains produits, fixer un prix français pour le marché français?
Écoutez, déjà, en amont, bien plus loin, à l'OMC, on avait demandé, on réclame toujours, l'exception agriculturelle. Alors ça, c'est un petit peu compliqué, mais ça veut dire que l'agriculture ne peut pas répondre, comme un produit manufacturé classique, à des critères qu'elle ne pourra jamais remplir. Et ça, c'est le fond du problème. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des investissements extrêmement importants et une rotation très lente. On peut considérer que l'agriculture est à peu près au même niveau que l'industrie lourde. Aujourd'hui, par UTH, par unité de travailleurs humains, on a des investissements très très lourds qui nous fragilisent en temps de crise et qui conduisent à des agriculteurs à un tel désarroi que parfois ils en arrivent au pire, c'est-à-dire au suicide. Vous en avez entendu parler, tout le monde en a entendu parler. C'était tabou. Nous, on a éclaté ça sur la place publique parce que c'est vraiment honteux qu'on en arrive à ça.
Il y a des expériences qui fonctionnent. Le cas du comté a été rappelé tout à l'heure. Donc, il y a une structuration des filières à trouver. Mais en même temps, est-ce qu'on peut généraliser ce cas-là à l'ensemble de l'agriculture? C'est loin d'être évident. Parce que des producteurs de blé qui vendent à l'Algérie ou à l'Égypte, ils ont besoin aussi d'un prix rémunérateur.
Une structuration des marchés, ça existe dans certains pays. On peut peut-être aller faire un petit tour, aller voir du côté des États-Unis comment ça se passe. On a changé de focale tout à l'heure pour zoomer du côté de l'Ille-et-Vilaine. On ajuste à nouveau notre objectif pour une vue satellite, comme on le fera désormais chaque dimanche, une fois ne sera pas coutume. C'est vous, Thierry Pouche, qui restez avec nous en plateau et qui nous racontez ce que vous observez depuis votre poste de contrôle au-dessus des États-Unis, où les producteurs de lait sont particulièrement protégés.
Oui, ils sont protégés, et ça depuis très longtemps. On a ce qu'on appelle une organisation des marchés laitiers, les Milk Marketing Orders, qui date depuis 1937. C'était dans le cadre de la politique agricole américaine à la suite de la Grande Dépression, où les prix agricoles s'étaient effondrés. Et on a créé cette organisation de marchés laitiers pour justement donner un peu plus de pouvoir de marché aux agriculteurs, aux éleveurs laitiers, qui étaient moins concentrés que les transformateurs ou les distributeurs. Et ça pour une raison supplémentaire, c'est le caractère périssable du produit. Donc il fallait vraiment leur donner un pouvoir de marché qui a consisté à finalement regrouper dans une juridiction fédérale, il y en a 10 aujourd'hui plus la Californie, et on collecte presque 75% du lait. Ce qui fait qu'avec cette organisation de marché, on a des mécanisme de péréquation de prix et finalement chaque agriculteur touche à peu près le même prix moyen avec évidemment des différences en fonction de l'usage qu'on fait du lait. Mais ça c'est quelque chose de très intéressant, on redonne du pouvoir de marché aux agriculteurs, aux éleveurs laitiers face à l'industriel.
C'était en une du Monde cette semaine, Amazon débarque dans le marché alimentaire avec pour objectif affiché comme toujours de casser les prix. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur l'organisation générale de l'agriculture aux États-Unis?
A priori non, puisque il s'agit quand même pour la politique agricole américaine, et ça c'est historique, de préserver coûte que coûte l'outil de production.
Très rapidement, Michel Lepape, une réaction à cet exemple américain qui
américain, doit faire des envies ici. Je vais rester nord-américain. Là, il y a le CETA qui va se signer bientôt, enfin qui a déjà bien avancé. On est en train de détruire un système qui fonctionne bien avec des quotas, et aujourd'hui les Canadiens nous en veulent terriblement. Ils en veulent à la France parce qu'ils disent qu'ils ont un outil qui leur permet de préserver des prix, de vivre correctement de leur métier, et nous on va aller les démolir pour demain se servir de leur production contre nos producteurs et se servir de nos producteurs contre les leurs. C'est honteux. Et ça, c'est l'industrie laitière, c'est tout.
Merci Michel Lepape. Je rappelle que vous êtes président de la coordination rurale en Indre-et-Loire. Merci à vous Thierry Pouche. Je mentionne le titre de votre dernier ouvrage coécrit avec Jean-Marc Chaumet, La Chine au risque de la dépendance alimentaire, aux presses universitaires de Rennes. Merci à vous.
Merci.
Très bonne soirée sur France Culture.
Merci.